de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 12 mars 1993.
D'une façon homéopathique. l'assimilation implique un discernement entre ce qui est assimilable et ce qui empoisonne. Tout n'est pas assimilable. Alors, évidemment, je comprends très bien ça, je suis tout à fait d'accord que pour chacun d'entre nous, on est arrivé à un certain degré de vérité. Alors pour certains, tout est assimilable. On peut tout trouver son bien partout, c'est très vrai. Mais trouver son bien partout, c'est justement faire le discernement entre ce qui est assimilable et ce qui n'est pas assimilable. Et le cours de critique, c'est pour aiguiser notre intelligence dans cette recherche de la vérité. Alors, ayez au moins le respect de dire « Pour moi, je ne vois pas. » Je comprends très bien. Il y a des tas de choses que je ne voyais pas il y a 30 ans. Mais je n'ai pas le droit de vous dire ce que je ne voyais pas il y a 30 ans. Il vaut mieux, comme ça, ils sembleront qu'on est beaucoup plus ouvert à tout. Comme disait l'autre, être ouvert ou fermé, c'est une qualité de la porte, mais pas de l'intelligence. Une intelligence ouverte, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Ouverte à tous les vents. La qualité de l'intelligence, c'est le discernement. C'est pas la même chose. C'est pas la qualité de la porte. Il faut être très très net là-dessus. Vous voyez ? Et ici, on essaie de chercher la vérité. Alors, quand on n'est pas d'accord, qu'on ait le courage de le dire. Et si on n'est plus d'accord sur rien du tout, qu'on ait le courage de le dire. Vous voyez ? Je crois que c'est très très important, ça. Ce qui prouve qu'on n'est pas fait pour cette recherche de la vérité. On est peut-être fait pour autre chose. On est peut-être fait pour la générosité. On va pas demander à Mère Teresa de faire des critiques sur Hegel. Pauvre Mère Teresa. C'est pas ça. Sa mission n'est pas ça. Sa mission, c'est la générosité. Et une générosité absolue. Alors, ce que je trouve très beau, c'est que les sœurs de Mère Teresa, quand elles rencontrent des frères de Saint-Jean, elles sont très heureuses. Ces petits frères de Saint-Jean nous comprennent. Ah, je dis, tant mieux. Celles du Cameroun me l'ont dit. Celles du Brésil me l'ont dit. Alors, c'est intéressant, vous voyez, de voir que des extrêmes se touchent. L'absolu de Mère Teresa n'est pas compris partout. Parce qu'il faut comprendre un absolu de vérité pour comprendre Mère Teresa. Ça, c'est sûr. Mais dans l'Église, on a une mission, il faut le savoir. On a une mission de maintenir une recherche de vérité. Et maintenir cette recherche de vérité, c'est très difficile dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a tellement peu qui recherchent vraiment la vérité. L'éclectisme, aujourd'hui, c'est d'avoir un esprit ouvert. Et tout le monde est d'accord avec un esprit ouvert. Au point de vue moral, c'est la facilité des fleuves. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Sauf le Saint-Père. Sauf le Saint-Père, qui commence à se faire critiquer violemment dans ce qu'il dit. Et on risque nous-mêmes de dire « Ah, oui, ils ont raison de critiquer le pape. Le pape est un Polonais, il ne comprend pas. » On juge d'après le conditionnement et non pas d'après la finalité. Je crois que c'est très important, vous voyez, d'avoir une lucidité de ce que nous essayons de faire au plan critique, au plan philosophique. Dans un monde où l'on ne recherche plus la vérité, c'est pas commun de chercher la vérité. faut bien vous dire ça. Et croyez bien que notre monde d'aujourd'hui ne recherche plus la vérité. Il essaie par tous les moyens de noyer le poisson. En faisant croire que c'est ça qui est important, c'est ça qui permet d'avancer. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on puisse assimiler les cours, par exemple, et qu'on n'arrive pas à juger et discerner? La qualité de l'intelligence, c'est de discerner. Krinein, hein? Le mot grec dit très bien ça. Parce que l'intelligence, elle est faite pour la vérité. Et sa qualité propre, c'est la vérité. Alors, on n'a pas le droit d'accepter quelque chose qui n'est pas la vérité. Ce que tout le monde accepte, ce n'est pas la vérité. Autrement, petit à petit, on s'empoisonne. Vous voyez ? Alors, si au noviciat, on a une grâce de renouveau pour l'Église. On a une grâce de renouveau. Si on a vicia, on n'a pas cette grâce. On étouffe cette grâce de renouveau. Je crois que pour toute sa vie, on va l'étouffer. Parce que on a vicia, c'est relativement simple. Ce qui est difficile, c'est de maintenir ce discernement en face de tous ceux qui aboient. Oui. Le Saint-Père, par exemple. C'est difficile de maintenir à travers tout un discernement, alors qu'on sait que la plupart des gens diront l'inverse. Est-ce dû à l'emprise de l'imaginaire, à un enfermement dans l'intentionnalité, un refus plus ou moins conscient du réel, à d'autres causes, péché originel, nécessité d'une prise en compte du temps. On n'assimile pas pour assimiler. Ce serait dommage d'en rester là. On assimile pour chercher la vérité. C'est évident. Parce que ce serait la boulimie alors. Et il y a une boulimie intellectuelle. On branche tout. Alors, c'est très vrai. L'imaginaire ne discerne rien. Et c'est la boulimie. On prend tout. Le primat de l'imaginaire empêche ce discernement. L'intentionnalité nous enferme dans la sincérité. Et la sincérité n'est pas la vérité. Donc ça peut provenir aussi de l'intentionnalité, le primat du vécu. Ce qui est un refus plus ou moins conscient du réel. C'est vrai. Mais au fond, les deux grands ennemis par rapport à l'assimilation de notre intelligence, c'est d'une part le primat de l'imaginaire. On est plongé dans un monde d'images, de représentations, et on ne fait pas l'effort d'atteindre le réel, le jugement d'existence. Et on reste dans l'intentionnalité, la méthode phénoménologique, où on identifie recherche de vérité et sincérité. Alors on est sincère. Donc, la recherche de la vérité implique tout le temps reprise radicale de tout. On ne progresse pas par accumulation au point de vue intellectuel. On progresse par pénétration. Indus legere, comme dit saint Thomas à propos de l'intelligence. Et cette expression, c'est une étymologie d'Isidore. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est très intéressant au point de vue de la signification. Intus legere. Que c'est que l'intelligence, c'est lire de l'intérieur. Ricoeur dirait exactement la même chose. C'est intéressant quand Ricoeur et Thomas d'Aquin disent la même chose. Peut-être dans la méthode, c'est très différent. Mais lire de l'intérieur, voilà ce que c'est que d'être intelligent. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à l'écorce, ne pas s'arrêter aux apparences, et essayer de saisir ce qu'il y a d'essentiel. Faire le discernement entre l'accidentel et l'essentiel. C'est ça, lire de l'intérieur, intus legere. Et pour lire intus legere, nécessairement, un discernement entre ce qui est accidentel et ce qui est essentiel, ce qui est premier et ce qui est secondaire. Toute analyse philosophique a ce but-là. Alors, deuxième question, l'intelligence est faite pour ce qui est. Tout à fait d'accord. Cette affirmation est-elle au-delà de toute critique ? Bien peut-elle se justifier en critique. C'est un fait. Mon intelligence est ordonnée à ce qui est. Puisque la qualité de l'intelligence, c'est d'être vrai. Et l'intelligence n'est vraie que si elle est conforme avec la réalité. Oui. Je ne peux pas justifier le pourquoi de l'intelligence. Je le constate. Je l'expérimente. Mon intelligence est faite pour la vérité. Mon intelligence cherche la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? La vérité consiste à atteindre le réel et de pouvoir dire ce qu'est ce réel d'une manière exacte. Le réel, c'est avant tout pour le philosophe, l'homme. C'est donc connaître la personne humaine et savoir ce qu'est la personne humaine. Mon intelligence est faite pour ça. Mon intelligence est faite pour atteindre ce qui est. Et ce qui est, c'est l'homme, l'exister de l'homme. C'est l'homme dans son exister. C'est l'homme concret qui existe. C'est ça la réalité. Pour le philosophe, avant tout. Évidemment, c'est aussi pour connaître l'araignée. Jésus. La connaissance de l'araignée aide à connaître l'irascible de l'homme. D'accord. Mais, vous voyez bien, je ne dirais pas que mon intelligence est faite pour connaître l'araignée. Mon intelligence n'est pas faite pour connaître en premier lieu, le monde physique. Elle est faite pour connaître l'homme dans son esprit. Et donc, l'intelligence. corps spirituel. Il revient tout le temps à ça. Alors, en divinité, vous voyez, c'est comprendre ce que saint Thomas nous dit. Primo cadit in intellectus ens. Comprendre vraiment que ce qui touche l'intelligence en premier lieu, c'est ce qui est. Et non pas le possible. L'intelligence n'est pas premièrement faite pour le possible. Alors, continuons à rechercher les axiomes. Vous avez dit, il faut essayer. Et il serait intéressant que nous puissions tous le faire. Si on est en panne, on sera en panne. Et on fera autre chose. On continuera. Mais je laisse le champ ouvert à ça. Nous avons essayé de comprendre les principes. Bon, le philosophe s'intéresse en premier lieu aux principes. Et le critique, ou la critique, s'intéresse, elle, aux axiomes. Parce que la plupart des hommes demeurent dans les axiomes. C'est très rare, les hommes qui touchent les principes propres de ce qui est. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et si on passait au suffrage universel, la philosophie première, elle serait la dernière. Ça, j'en suis sûr. Parce que c'est pas la philosophie première qu'on cherche avant tout dans le monde d'aujourd'hui. Mais nous cherchons la philosophie première parce que nous sommes des croyants. Et que nous voulons mettre notre intelligence au service de la foi. En définitive, c'est ça. Alors, nous avons noté que le premier axiome, c'est l'axiome dit de non-contradiction. Je ne peux pas affirmer et nier en même temps, sous le même aspect, que ceci est et que ceci n'est pas. L'un est vrai, l'autre est faux. La source de toutes les confusions, ou la source radicale de toute confusion, vient d'un manque de discernement entre affirmation et nier et négation. Ça, c'est évident. La source de toute la modernité, c'est de mettre un primat sur la négation par rapport à l'affirmation. Ceci est moins évident. Alors, il faut essayer de le montrer historiquement. Et pour le montrer historiquement, c'est de montrer que progressivement, chez les théologiens, la métaphysique s'est identifiée avec la logique, avec Occam. Et Occam ne recherche plus la vérité, mais le possible. Si je recherche le possible avant ce qui est, la négation sera première. Dans l'ordre du possible, la négation est première. En ce sens que la négation ne ferme aucune porte. Et l'intelligence ouverte. Puisqu'on ne ferme aucune porte. La négation suspend. Ceci n'est pas. C'est possible que ce soit. Mais ceci n'est pas. Et le possible reste ouvert. La négation. l'interrogation porte sur ce qui est, et non pas sur le possible. Et donc, si le possible est avant, si au fond c'est le possible qui me donne l'intelligence de ce qui est, la négation progressivement deviendra première. Et j'aboutirai à cette affirmation de Kant, la subjectivité transcendantale. La subjectivité transcendantale, c'est de mettre le possible avant l'être. Donc il y a tout un aspect extrêmement intéressant qui montre comment on veut dépasser l'axiome de contradiction. C'est un fait. Et c'est l'intérêt de l'axiome de contradiction. Alors, si vous avez le temps, lisez dans Aristote ce passage de critique dans sa philosophie première au livre Gamma. Aristote précise que la philosophie première regarde ce qui est en tant qu'il est, le tauron éon, et à la suite, il montre que l'axiome, parce qu'Aristote dit toujours l'axiome de contradiction, de non-contradiction, quelque chose qui est fondamental à la vie de l'intelligence. Si vous supprimez l'axiome de nos contradictions, le langage n'a plus aucune détermination. Vous pouvez discuter tant que vous voulez, parce que chacun a sa vérité. Et si chacun a sa vérité, vous êtes devant la tour de Babel. Vous ne pouvez plus jamais rien dire de vrai. Mais c'est d'affirmer avec beaucoup de force et beaucoup c'est très intelligent, ce passage. Et je crois que pour nous, c'est un des passages qu'on doit tous méditer. La suppression du principe de non-contradiction entraîne le primat du possible. Et le primat du possible fait qu'il n'y a plus de vérité. Chacun sa vérité. Alors, je peux me poser la question, quel est l'axiome en philosophie éthique correspondant. En philosophie éthique, l'axiome, c'est il faut faire le bien, éviter le mal. C'est l'analogue dans l'ordre éthique à l'axiome de nos contradictions. Je voulais vous dire, Aristote parle d'axiome. Après Aristote, on parlera de principe. Tout axiome est un principe. Mais un principe dans l'ordre de l'intelligibilité. Mais c'est un principe. Mais ce n'est pas une cause. C'est une loi. Tous les axiomes sont des lois. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment l'axiome au niveau philosophie spéculative se retrouve au niveau moral. C'est pas le même, mais c'est l'analogue. Comme l'axiome de nos contradictions est saisi par l'habitus les premiers principes. L'axiome en éthique est saisi par la Sainte Thérèse. C'est pas Sainte Thérèse, hein, la Sainte Thérèse. Et la Sainte Thérèse, c'est l'habitus au niveau pratique. Parce que c'est arrivé déjà dans un examen, quelqu'un m'a dit... Alors, j'ai dit, on n'a pas attendu la petite Thérèse pour dire que... Il faut faire le bien, éviter le mal. C'est vieux comme l'humanité, ça. Comme l'axiome de nos traditions. Donc, dans l'ordre pratique, et saint Thomas lui-même fait le parallélisme entre les deux axiomes. C'est du reste très intéressant à mettre en parallèle. Il faut faire le bien et éviter le mal. Vous voyez, ça repose sur cette affirmation. Le bien, c'est ce que tous désirent. Alors, quand je dis le bien, c'est ce que tous désirent, est-ce que c'est un axiome? Je crois que c'est l'élément premier de l'axiome. Il faut faire le bien, éviter le mal. Le bien, c'est ce que tous désirent. Le mal, c'est ce que tous rejettent. C'est ça le mal. Et le bien, c'est ce que tous désirent. On est attiré par le bien. Il n'y a pas de définition du bien. Je peux dire que par l'effet du bien, je connais ce que c'est que le bien. Le bien, c'est ce qui m'attire. Et ne disons pas que c'est bien pour moi. Non, ce qui attire tout le monde. Et le mal, c'est ce que tous rejettent. Alors voyez, affirmation, négation, dans l'ordre pratique, c'est bien amour et haine. C'est bien le désir du bien et la haine du mal. Il y a une haine du mal. La haine du mal et l'amour du bien exprime la loi fondamentale de l'appétit. De l'appétit humain. Bon, j'ai les deux extrêmes, là. Et là, je peux l'affirmer de façon très nette, je reste en me référant à des autorités, mais indépendamment de ces autorités au plan critique, je peux dire qu'en effet, il y a des analogies profondes entre être ce qui est, ce qui n'est pas, entre bien, ce qui attire, mal, ce qu'il faut rejeter, vient le mal. Ce qui provoque la haine. Modernité consiste à mettre la négation avant l'affirmation. Ce que je crois. Tu crois que c'est ça qui caractérise la modernité de notre monde, du côté pratique, c'est mettre la haine avant l'amour. Et c'est par le fait même se servir de la haine pour comprendre ce qu'est l'amour. Puis chercher maintenant les axiomes dans les autres parties de la philosophie. Les autres parties de la philosophie, donc ici, c'est les deux extrêmes, philosophie première, éthique. Avant l'éthique, philosophie de l'art, quel est l'axiome de la philosophie de l'art? Quel est le principe propre de la philosophie de l'art? Causalité exemplaire. L'idée, c'est toujours par le point de vue positif de la réalité que je vais comprendre l'axiome. Il ne peut pas être autrement, il y a un lien entre les deux. Et quand il s'agit de la causalité exemplaire, première en philosophie de l'art, la frontière entre l'axiome et le principe est beaucoup plus ténue. C'est même en causalité exemplaire où, de fait, la frontière entre les deux est presque télescopée. Et si toutes les réalités que je touche, que je vois, sont des œuvres d'art. L'eidos est substance. Dit Aristote. Ça, ça me met sur la route de l'axiome. Mais si toutes les réalités que je vois, que j'expérimente, sont des œuvres d'art. L'eidos est substance. Alors, ceci me permet de comprendre que l'axiome en philosophie de l'art, c'est donc, et ça ne peut être que l'idée, joue le rôle de cause exemplaire de façon positive, mais qui peut être aussi ce qui donne l'intelligibilité à toute l'activité artistique. Donc, c'est l'idée comme fondement de toute l'activité artistique, de tout ce qui caractérise l'activité artistique, l'idée devient substance. C'est l'idée qui est première et qui me fait comprendre alors comment tout se ramène à l'idée. Et tout doit se ramener à l'idée. Comment exprimer ça? Seul ce qui est intelligible, seul ce qui est intelligible existe. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on trouve dans Leibniz. Le rationnel seul existe. Seul l'intelligible existe. L'idéal. Un monde qui devient un monde uniquement artistique est un monde de pure intelligibilité et qui refuse tout ce qui n'est pas intelligible. Et qui met le primat absolu sur le point de vue intelligible, sur le point de vue rationnel. Le rationnel seul existe. On comprend très bien comment la causalité exemplaire, qui est première dans l'activité artistique, elle est rivale de la causalité finale, très facilement. La causalité finale est commandée par le bien. Le bien, c'est ce que tous désirent. La causalité finale, la causalité exemplaire, c'est l'inverse de la causalité finale. Tout ce qui est intelligible, ou tout ce qui existe est intelligible. Tout ce qui est intelligible existe. Je n'accepte que l'intelligible. Il me semble que c'est l'axiome de la philosophie de l'art. C'est très juste en philosophie de l'art, puisque tout provient de l'idéa, et que l'idéa est cause exemplaire qui commande toute l'activité artistique.